Chapitre 13. 2 octobre 1998, 10h47, Saint-Lazare. Un brouhaha soudain obligea Marc à tourner la tête. Les portes du compartiment s'ouvrirent et la foule, déjà compacte sur le quai, s'efforça de se tasser dans le wagon, jusqu'alors presque vide. Ce n'était pas la cohue du matin ou du soir, mais la densité des corps debout par mètre carré obligea tout de même Marc à se lever. Le strapontin claqua contre la paroi de fer. Marc se recula dans le coin, collé à la vitre. Il n'avait pas lâché le cahier. Il se cala fermement, les pieds légèrement écartés pour bien conserver son équilibre. La main d'un type s'accrochant à la rampe d'acier passait juste sous son nez, pendant que de l'autre, il dévorait avec avidité un thriller en collection de poches. Marc se tourna légèrement, afin lui aussi de pouvoir continuer à lire. Avec les secousses, la petite écriture serrée de Grand-Duc dansait devant ses yeux, mais la déchiffrer devenait possible. Journal de Crédule Grand-Duc. Maître Leguern monta à la barre. Il y avait une petite trentaine de personnes dans la salle ce 22 avril 1981. Les deux familles, les proches, les avocats, divers témoins, des policiers. Leguern s'adressa d'abord aux policiers présents dans la salle. « Messieurs, demanda-t-il, la miraculée portait-elle un quelconque bijou sur elle lorsqu'on l'a trouvée? Un collier, par exemple? Un pendentif? Une gourmette, peut-être ?» Regard médusé des enquêteurs. Le commissaire Vatelier, assis au premier rang, toussa dans sa barbe. « Non, évidemment. Comme si le bébé trouvé portait autour du poignet une gourmette avec écrit dessus « Lise Rose » ou « Émilie ». Où voulait-on venir ce jeune avocat prétentieux ?» « Bien, » continua Leguern. « Madame Vitral, est-ce que la petite Émilie portait un bijou, une chaînette, un bracelet ?»«
Aucun, »
répondit Nicole Vitral. « Vous en êtes certaine ?»«
Oui. »
Nicole Vitral réprima un sanglot et continua.
« Oui, nous devions donner sa gourmette à Émilie pour son baptême à leur retour de Turquie. On l'avait déjà commandée chez le cerf à Offranville. » Mais elle ne l'aura jamais portée. »
Elle se pencha, fouilla quelques instants dans son sac et en tira un écrin rouge de forme allongée qu'elle colla sous le nez du juge Weber. Elle l'ouvrit et déposa au creux de sa main une minuscule gourmette en argent, aussi fragile qu'inutile. L'émotion parcourut le public, y compris dans le camp de Carville. « Émilie » était gravée en italique, une écriture attachée, enfantine, presque joyeuse, ainsi que la date de la naissance, le 30 septembre 1980. Je l'ai découvert par la suite. Nicole Vitral me l'a avoué. C'était un coup monté. Le baptême était bien prévu le mois suivant, mais aucune gourmette n'avait encore été commandée. C'était juste une mise en scène, risquée mais efficace. Une mise en condition, avant de porter l'estocade. Le jeune avocat se tourna alors vers Léonce de Carville. « Monsieur de Carville, Lise Rose possédait-elle un bijou, une gourmette par exemple ?» Carville regarda avec inquiétude ses avocats. Le juge Weber insista. « S'il vous plaît, monsieur de Carville, veuillez répondre à maître Leguern. » Carville allait s'exprimer, mais Leguern, plus vif, ne lui en laissa pas le temps. Il sortit, triomphant de son épais dossier rouge, la photocopie d'une facture. Et pas n'importe laquelle, de chez Philippe Tourner, joaillier bijoutier, place Vendôme. Le juge Weber confirma. La facture mentionnait explicitement la livraison d'une gourmette en or massif. Elle précisait que le prénom, Lise Rose, et la date de naissance, 27 septembre 1980, avait été gravé à la main, au poinçon. La facture datait du 2 octobre 1980, soit moins d'une semaine après la naissance de Lise Rose. Cela ne prouvait rien, absolument rien. Mais pour la première fois depuis le début des audiences, Carville était sur la défensive, sans contre-argument méticuleusement préparé par ses avocats. « Monsieur de Carville, continua Le Guerne, Lise Rose portait-elle habituellement cette gourmette? Comment voulez-vous que je le sache? Je l'avais envoyée à mon fils en Turquie, juste après la naissance de Lise Rose. Mais il ne la lui mettait sans doute que rarement, je suppose, pour des occasions. C'était une gourmette de valeur. Vous supposez ou vous savez? Je suppose. Bien, je vous remercie. Maître Le Guerne sortit une nouvelle photocopie de son dossier rouge, celle d'une carte postale postée de Seyhan, en Turquie. Monsieur de Carville, vous avez bien reçu cette carte de votre fils de Turquie, environ un mois après la naissance de Lise Rose. Où avez-vous trouvé ça? Hurla Carville. Avez-vous reçu cette carte postale? Poursuivit l'avocat, imperturbable. Carville céda, il n'avait pas le choix. Les branches du chêne pliées. Oui, évidemment. Cher papa, commença à lire Le Guerne. Je passe les détails, voici ce qui nous intéresse. Merci pour la gourmette. Vous avez dû la payer une fortune, elle est magnifique. Lise Rose ne la quitte pas. C'est la seule chose qui fait d'elle une petite Française ici. Le Guerne s'arrêta, triomphant dans la stupeur générale. Je n'ai jamais su qui avait trahi les Carville. Un employé, sans doute. Le Guerne avait dû payer la carte postale à prix d'or. Enfin, à prix d'or. Tout est relatif, comparé à un immeuble de 3 étages rue Saint-Honoré. Cela ne prouve rien, tempêta un avocat des Carville. C'est grotesque. La gourmette a pu être rangée avant de prendre l'avion. Elle a pu être arrachée lors du crash. Le Guerne triomphait. A-t-on trouvé une gourmette ou un bijou ressemblant près de l'Airbus dans ce périmètre dont chaque centimètre carré a été ratissé? Silence dans la salle d'audience. Y compris Vatelier, les mains dans son blouson de cuir, terrassé de s'être fait doubler dans son enquête par un jeune ambitieux en robe noire. Non, bien entendu. N'est-ce pas, commissaire? A-t-on relevé sur le poignet du bébé miraculé les marques d'un bracelet qui aurait été arraché? La moindre petite marque rouge? Un temps d'arrêt, savamment dosé. Non, bien entendu. Les médecins n'ont rien noté de tel. Allons plus loin. A-t-on remarqué sur le poignet du bébé une marque un peu plus pâle sur son bras, un peu moins bronzée? Ce type de marque que laisse un bijou que l'on porte en permanence? Le temps sembla s'être arrêté. Non, aucune, bien entendu. Je vous remercie, ce sera tout. Maître Le Guerne retourna s'asseoir sur sa chaise. Les avocats de Carville crièrent une nouvelle fois que ce coup de théâtre n'en était pas un, que cette malheureuse gourmette ne signifiait rien. Le Guerne ne répondit pas. Il savait que plus les avocats adverses se défendaient, plus ils donnaient de poids à cette simple question. Si ce détail était sans importance, pourquoi Carville n'en avait-il jamais parlé à la justice? Avec le recul, cette histoire de gourmette n'était ni plus ni moins importante que le reste. Un doute de plus. Mais là, à cet instant du procès, la gourmette se transforma en pièce à charge contre les Carville. Un élément nouveau dans l'affaire, celui que tout le monde attendait depuis le début de l'enquête. Alors, même tiré par les cheveux, même léger, cet élément nouveau était suffisant pour faire pencher la balance. Le juge Weber regarda longuement Léonce de Carville. L'industriel avait menti, par omission certes, mais il avait menti tout de même. Il avait été pris en flagrant délit. Rien que pour cela, faute de mieux, est-ce que le droit ne devait pas revenir à la partie adverse? Dans le doute. Quant à la gourmette de Carville, elle hantera ma vie de longues années. Quand je repense à l'énergie que j'ai mise à la retrouver, à suivre son périple, quand je pense que j'ai failli la tenir entre mes doigts, qu'il s'en est fallu de si peu. Mais pardonnez-moi encore, j'anticipe. La décision du juge Weber fut connue quelques heures plus tard. La miraculée du Mont-Terrible se nommait Émilie Vitral. Ses grands-parents, Pierre et Nicole Vitral, devenaient ses tuteurs légaux, ainsi que ceux de son frère aîné, Marc. Lise Rose de Carville était morte, brûlée vive avec ses parents dans la carlingue de l'Airbus 5403, Istanbul-Paris. Les avocats des Carville voulurent faire appel, utiliser tous les recours possibles. Ce fut Léonce de Carville qui refusa. Son rôle de chaîne brisée, de papé, n'était plus une composition de circonstances. Les deux attaques cardiaques dans l'année qui suivit, presque coup sur coup, à quelques mois d'intervalle, qui le clouèrent pour le restant de ses jours à l'état de quasi-légume dans un fauteuil roulant, semblèrent parfaitement dans la logique des choses. Thank you.